C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous allons tous devoir modifier nos habitudes quotidiennes. Se loger, se déplacer, se nourrir, se divertir, en tenant compte des ressources limitées de notre planète. Des limites dont nous commençons seulement à prendre conscience. Alors comment faire ? Eh bien c'est le principe des contrats de transition écologique et solidaire impulsés par le gouvernement français dans une vingtaine de territoires. Car c'est à l'échelle locale, en observant son environnement et son potentiel, en discutant avec ses voisins pour inventer de nouveaux modes de vie que les solutions émergent.
C'est pas du vent sur RFI.
Tu veux monter devant ?
Non, je peux.
Là, le bus, tu vois, tu ralentis, il tourne à droite, lui, nous, on va aller tout droit. Mais tout à l'heure, c'est la rue que tu vas prendre.
C'est avant tout une histoire d'envie. Pierre Leroy en a pour 1000, ou plutôt pour 35 000. C'est le nombre d'habitants du pays du Grand Briançonnais qu'il préside dans le sud-est de la France. 36 communes réparties sur un territoire montagneux qui subit déjà les conséquences des changements climatiques.
Il y a un parking sur la droite, tu peux te garer un peu plus loin.
Pierre Leroy nous a donné rendez-vous devant chez lui, à Puy-Saint-André, un village de 500 habitants dont il est le maire depuis une dizaine d'années.
Oui, on domine la vallée de la Durance, on est plein sud. Là, on est à 1525 mètres d'altitude. Et là, on est devant une maison solaire. Donc c'est une maison qui a toutes les caractéristiques du solaire, parce que quand on parle de solaire, on parle de plein de choses différentes. C'est déjà une maison bioclimatique, donc la structure architecturale de la maison fait qu'elle est elle-même un capteur. Donc là, comme vous voyez, elle est vitrée sur 180 degrés, elle est enterrée au nord, et elle est très ouverte au sud. En plus de ça, on a du solaire thermique, donc là, c'est des capteurs thermiques qui captent la chaleur et qui la restituent dans la dalle de la maison et dans l'eau chaude sanitaire. Et puis le dernier système en toiture, c'est plus classique, hein. C'est une centrale photovoltaïque. Donc pour cette maison, par exemple, qui fait 130 mètres carrés, eh bien j'achète pour 600 euros d'énergie tout compris, en électricité et en bois de chauffage, et je vends pour 2500 euros d'énergie. Voilà, donc en fait cette maison, elle rapporte de l'argent grâce à l'énergie qu'elle produit, et elle produit approximativement 3 fois l'énergie qu'elle consomme.
Par an.
Voilà, par an.
On s'approche ?
Allez, on y va.
On a des protéines.
Voilà. Donc elles sortent là, elles font le tour du jardin, elles montent là-haut. Quand je suis par là, elles se baladent.
Et elles mangent les épluchures.
Voilà.
Ben,
voilà
réduction des déchets.
C'est ça. Les épluchures, elles sont là. Elles étaient là.
Dans le salon.
Voilà.
Et la vue, là, c'est le bonus, en fait.
Ah ben, nous, non, on s'habitue pas, en fait, parce que c'est tellement génial. Et là, j'ai des amis québécois qui étaient ici pendant 5 mois. Ben, ils passaient leur temps dans les fauteuils à regarder, là. Ils disaient, oh, c'est génial, parce que c'est vrai qu'on voyage, quoi. On voyage.
Parce que là, on a vu sur les montagnes. On a vu loin, très loin, c'est très dégagé.
On a 180 degrés de vue. Là, quand je fais la vaisselle là-bas, je peux vous dire que c'est pas une plaie. Hein.
Depuis combien de temps vous êtes comme ça, un défenseur de l'environnement, quelqu'un d'engagé sur ces questions-là ?
C'est difficile à dire, hein, parce que tout petit, je m'intéressais au recyclage. Quand j'avais 11 ans, on allait à la décharge avec mes frères. Et on récupérait des journaux, et donc on recyclait le papier journal chez le libraire. Donc ça m'a accompagné tout le temps. Et puis après, oui, quand j'ai eu plus de 20 ans, oui, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, moi, qui me mettent en colère. Et donc c'était aussi une façon de canaliser cette colère en étant actif, acteur de mon environnement et en essayant, dans ma vie personnelle et puis dans ma vie professionnelle, d'essayer d'agir dans un sens qui me semblait positif pour l'environnement et l'humanité.
Et du coup, vous avez été militant écologiste, et puis petit à petit, vous vous êtes dit, au lieu d'aller contre et de faire des actions pour empêcher ce qui dégradait l'environnement, vous vous êtes dit justement, j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire. Et c'est là où, avec d'autres citoyens, vous vous êtes présenté pour être élu avec une liste, avec des projets ancrés dans le territoire.
Oui, alors, il y a plusieurs choses. Je suis aussi soignant. Et ça, pour moi, c'est important. Parce qu'au fond de moi, je me sens soignant. Là, je suis en fonction de maire, en fonction de président du Pays Grand Briançonnais. J'ai la sensation de continuer mon métier, de prendre soin. Prendre soin d'un territoire, prendre soin d'une population. Je tente en tout cas d'aller dans ce sens-là. L'empowerment en santé publique, c'est redonner le pouvoir aux patients. Ben là, c'est redonner le pouvoir à la population pour qu'elle se prenne en main. La résilience, ben oui, c'est un concept de santé publique. C'est aussi un concept, là, en l'occurrence, concernant les territoires, sur le soin des territoires. Tous ces sujets-là, aujourd'hui, ben, ils nous entourent. Moi, j'ai l'impression de faire mon métier, de faire ce pourquoi je suis là, prendre soin d'un territoire. Donc, ben, en effet, là, on essaie, avec les citoyens qui sont là autour et qui s'intéressent, soit des élus, soit des associatifs, eh bien, de faire pour et d'essayer d'orienter les choix politiques, d'orienter les choix d'entreprise, d'orienter le quotidien des citoyens vers quelque chose de soutenable pour notre avenir.
Ça fait 10 ans que vous êtes maire d'ici, depuis Saint-André, 500 habitants. Vous les avez convertis petit à petit à la nécessité de s'intéresser à la transition écologique ?
Bon, ça faudrait leur demander, mais je dirais un terroir favorable. Les gens qui sont là, pour beaucoup, ont fait le choix de vivre ici. Après, ben, nous, on a écouté aussi les habitants. On leur a demandé ce qu'ils souhaitaient. Et donc, on avait fait un questionnaire en 2008 pour essayer justement de sentir un petit peu qu'est-ce qui était important pour eux. Et puis, nous aussi, on a accompagné et on a essayé de faire aussi preuve de pédagogie sur les sujets de l'énergie à travers l'éclairage public, les consommations d'énergie et la production d'énergie renouvelable, sur les sujets du transport. Donc là, c'est des enjeux qui sont primordiaux et très compliqués pour les collectivités. Donc on fait des essais là sur la commune par rapport au transport public, sur l'agriculture aussi et les circuits courts, la gestion du foncier, sur tous ces sujets, sur l'urbanisme. Quelles sont les solutions pour vivre mieux et dans une situation soutenable pour notre société ?
Quand on s'était rencontrés avant que nous décidions de venir vous voir ici pour faire ce reportage, et puis on va aller rencontrer toutes les personnes dont vous parlez qui agissent dans ces différents domaines, vous m'aviez dit en fait, j'ai lancé la transition écologique parce que c'est le seul moyen de lutter contre l'effondrement, parce que l'effondrement, il existe ici.
Alors en effet, on est un territoire exceptionnel, mais fragile. Au moment où il y a une augmentation de température de 1 degré au niveau mondial, nous, ici, dans l'arc alpin et en particulier dans le Briançonnais, c'est 2,5 degrés. Donc ce n'est pas anodin, c'est plus du double de ce qui se passe ailleurs. Et puis après, évidemment, les problèmes d'enneigement, les problèmes de sécheresse, là c'est toute l'activité économique qui s'en ressent. Donc il faut trouver des solutions d'adaptation. Ça nécessite de se relever les manches, de faire ensemble, et ça pour nous c'est déterminant. La solution viendra de cette capacité à faire ensemble.
La biodiversité, Pierre Leroy, ici, est fortement impactée. Elle est essentielle parce que c'est un endroit où la nature est très très présente, où elle conditionne beaucoup la vie des habitants, mais elle est aussi très impactée par les changements climatiques et par les activités humaines.
Paradoxalement, nous, on est entouré de biodiversité, donc en fait, pour nous, c'est assez banal. Hein. Et finalement, ce n'est pas tant une préoccupation quand on vit ici. On est au milieu de cette biodiversité. Donc en fait, ça n'a pas été notre préoccupation majeure. Par contre, quand on en discute avec l'Office national des forêts, quand on en discute avec les passionnés de la Ligue de protection des oiseaux, là, on mesure qu'on est fortement impacté pour le coup. Et donc, quand on a créé la réserve naturelle régionale des Parcias, ce n'était pas pour en faire une cloche sous laquelle on ne peut pas vivre. C'était créer un espace où on s'interroge, où chacun des praticiens du lieu, que ce soit les chasseurs, les agriculteurs, les randonneurs, les skieurs, les cyclistes, tous les usagers de l'espace s'interrogent. En quoi, moi, quand je suis là, j'impacte mon environnement ? et que ça soit fait en conscience. Et qu'à partir de là, eh bien finalement, on se dise, peut-être que moi, dans mes pratiques, je peux faire que ça soit moins pire. Et que dans tout notre quotidien, on se dise, là, peut-être je peux faire différemment. Et je pense que c'est ça qui est important, à la fois sur la biodiversité, mais sur tous les sujets. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer aujourd'hui pour aller à l'endroit où j'ai envie d'aller? Est-ce que c'est important? Et si je le fais, je le fais, mais en conscience. Est-ce que c'est bien de partir aux Canaries pour 3 jours, en avion? C'est des questions qu'on peut se poser. Après, chacun, en conscience, en fait le choix. Mais je pense que ce qui pêche aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas véritablement des choix. On se laisse porter et on ne mesure pas les impacts de nos actes quotidiens. Et là, je pense que l'enjeu, il est là.
Bon, nous, on va faire le choix d'émettre un peu de CO2 parce qu'on va prendre notre voiture et on va aller voir Vanessa Fine à la réserve naturelle régionale des Parthias. Bonjour Vanessa Fine.
Bonjour.
On vous retrouve là au bord d'une rivière parce que vous êtes en charge de la gestion de la réserve naturelle régionale des Parthias. Vous pouvez nous présenter cette réserve en quelques mots?
Oui. Alors cette réserve est sur la commune de Puy-Saint-André, dans le Briançonnais, près de Serre-Chevalier. En fait, la réserve naturelle régionale existe depuis 10 ans, mais son histoire est bien plus ancienne que ça. Elle a été initiée dans les années 80 par les citoyens qui se sont mobilisés, parce qu'à l'époque, il y avait un projet d'agrandissement du domaine skiable sur ce vallon-là, et donc en faire à l'époque une réserve volontaire.
Et aujourd'hui, c'est un espace qui est utilisé pour réfléchir, où on s'interroge finalement sur les différents usages autour de la nature, autour de cette biodiversité.
L'objectif de la réserve, c'est de sensibiliser les gens, de faire réfléchir autour de sa pratique, mais c'est aussi de continuer à avoir des activités qui ont toujours eu lieu et qui continuent à se pratiquer. En particulier, on a des activités pastorales, on a des troupeaux de vaches, de brebis qui viennent dans la réserve, on a de l'exploitation forestière, on a des randonneurs bien sûr, que ce soit en été comme en hiver. Donc tous ces gens-là continuent à venir dans la réserve et nous, notre travail, c'est de bien connaître le territoire au niveau de sa biodiversité et de mettre en lien préservation de la nature avec activité humaine.
Alors comment est-ce que vous faites pour concilier les deux? Quelques petites astuces?
Alors par exemple, un exemple sur le tétralyre, donc une espèce de galliforme de montagne de la famille des gallinacées, donc des poules. Cette espèce-là se trouve à la limite de forêt. Et en fait, elle est très sensible aux dérangements, donc à toutes les périodes de l'année. L'été, elle est sensible aux dérangements pour sa reproduction. Et l'hiver, elle est sensible aux dérangements parce qu'elle s'enfouit dans des igloos. Donc elle a besoin de neige fraîche pour se faire des igloos et se protéger du froid. Et bien souvent, ces endroits-là sont aussi les endroits où les skieurs viennent chercher la poudreuse et tracer quelques virages. Donc on a recensé les zones d'hivernage du tétralyre. Et on a fait une phase de concertation avec les skieurs de randonnée locaux pour leur demander de ne pas aller dans ces zones-là.
Alors ça fait partie de ce qu'on peut appeler la transition écologique, c'est-à-dire apprendre finalement à pratiquer ces activités tout en préservant son environnement et son patrimoine. Et vous êtes allé plus loin puisque vous avez aussi impliqué les populations dans la plantation d'arbres pour diversifier la forêt.
Oui. Alors, on a fait le constat que la réserve des Parthias, comme beaucoup de forêts du Briançonnais, elle est à la fois riche, mais au niveau espèces forestières, les arbres, elle est assez monospécifique. On a du mélèze en grande prédominance, ce qui ne devrait pas être le cas si la nature avait évolué librement, on aurait quelque chose de plus diversifié. Donc, on a voulu remettre de la diversité et on a voulu la faire de façon à impliquer la population. Donc, à la fois les citoyens de façon individuelle. On avait également la station de Serre-Chevalier qui a participé avec ses salariés à la plantation.
Donc, comme quoi, les ennemis sont devenus voilà. Les amis.
On n'en est plus du tout à l'opposition. Maintenant, on travaille ensemble sur cette action comme sur d'autres. Et donc, on a planté 3000 pins cimbreaux en octobre dernier avec la participation d'une près de 150 personnes pendant 2 semaines.
Et l'effondrement de la biodiversité, vous le voyez ici?
Alors, on le mesure à une échelle plus large que le territoire du Briançonnais, mais le retour qu'on a de terrain, c'est que oui, les forêts sont plus silencieuses, c'est le constat qu'on peut faire sur le terrain. Après, la mesure, elle se fait à une échelle plus grande avec les scientifiques et des programmes auxquels on va contribuer, mais les chiffres parlent à plus large échelle.
Alors justement, nous allons aller en forêt puisque nous avons rendez-vous avec Christophe Ruth de l'Office national des forêts.
Thank you.
Bonjour Christophe Rude.
Bonjour.
Alors là, nous vous retrouvons en forêt, parce que vous êtes responsable de la forêt ici. Vous surveillez combien d'hectares ?
Je surveille 37 000 hectares sur les deux communautés de communes de Briançon et de l'Argentière.
Et là, nous sommes où exactement ?
Alors ici, nous sommes en forêt communale de Briançon. Voilà, c'est une forêt qui surplombe la ville de Briançon.
Et alors, comment se porte cette forêt ? Est-ce qu'elle va bien, docteur ?
Alors, cette forêt, elle est dans des conditions, je dirais, déjà difficiles depuis toujours, puisque c'est la zone une des zones les plus sèches du Briançonnais, c'est plein sud. D'ailleurs, on y trouve de la lavande, hein, pour bien indiquer que c'est très méditerranéen. Donc, l'essence locale qu'on a naturellement dans ce type de sol, c'est le pin sylvestre, voilà. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de dépérissement dans la forêt, voilà.
Oui, là, on a fait une petite balade, là, le long d'un sentier. Du coup, on est vraiment au milieu de la forêt. En plus, en face, juste derrière, on a les montagnes. C'est vrai qu'on a de la chance d'être dans un beau paysage. Mais on a vu quelques arbres très secs, voire morts. Qu'est-ce qui leur arrive ?
Alors, ce qui leur arrive, c'est qu'ils sont dans une station sec. Donc, dès qu'il y a le moindre épisode climatique, une petite période de sécheresse, ils s'affaiblissent. Et ils ont du mal à lutter contre les parasites naturels de la forêt. Parce qu'on a aussi tout un cortège d'insectes qui attaquent naturellement les arbres. Hein. Donc les arbres en bonne santé, ils vont être attaqués par ce qu'on appelle des scolites, c'est des petits coléoptères qui percent l'écorce des arbres. Si l'arbre est en bonne santé et qu'il a suffisamment de réserves, il va se défendre en engluant l'insecte dans la résine. Voilà. Par contre, s'il y a une attaque multiple et s'il n'arrive pas à se défendre, il va empêcher, en engluant les insectes, il va empêcher la sève de circuler et au bout d'un moment, il va finir par mourir.
Et depuis quelques années, vous constatez de plus en plus de pertes. Est-ce qu'on peut faire un lien avec les changements climatiques ?
On peut faire un lien dans le sens où on a des sécheresses plus répétées qu'avant. Et puis ici, c'est un peu un exemple de ce qui risque de se passer si la température augmente. Si la température augmente, on va avoir plus de parasites. Notamment ces scolites dont je vous parlais, ils vont faire une attaque dans l'année. Par contre, s'il fait plus chaud à l'automne, par exemple, ils vont faire deux, voire trois cycles. Du coup, le premier cycle, vous avez une multiplication des insectes, et à chaque fois, c'est exponentiel. Et donc, si les arbres sont en bonne santé, ben, ils peuvent résister. Par contre, s'il y a la moindre faiblesse, évidemment, la pullulation de parasites sur les arbres vont les faire mourir.
Et du coup, est-ce que ça veut dire que les forêts vont changer ici ?
Indéniablement. Ce qu'on constate, c'est que naturellement, les gènes de nos forêts ont déjà subi des épisodes climatiques. Et il y a quand même, le pin sylvestre, c'est une essence très résistante au sec, donc ils sont déjà naturellement résistants. Donc on constate qu'il y a de la mortalité, mais ce n'est pas généralisé. Voilà.
Ces forêts-là, les 37 000 hectares dont vous vous occupez, sont aussi des lieux de tourisme, évidemment, des lieux où on peut se promener, faire de la randonnée. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui profitent de cette nature ont conscience qu'elle est en train de changer ?
Moi, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, le changement climatique, pour l'instant, je pense qu'il faut être un peu expert pour le voir. Voilà. Parce qu'en fait, le dépérissement des arbres, les gens ne savent pas si c'est un épisode assez classique d'une attaque d'insectes ou si c'est lié à l'élévation de température. Les choses sont... Pour l'instant, je dirais que la forêt du Briançonnais a bien résisté dans l'ensemble.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes avec Pierre Leroy à Briançon. Pierre Leroy, vous êtes président du Grand Briançonnais. La nature est magnifique. Ici, on est entouré de montagnes. On voit une biodiversité très riche, même si on a entendu qu'elle souffrait. Mais on ne voit pas beaucoup de champs agricoles. Ici, l'alimentation, c'est compliqué si on veut vraiment être dans une logique d'autonomie, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Ici, comme partout ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, justement, la problématique agricole, on en parle régulièrement, l'autonomie alimentaire des territoires, où qu'on soit en France, elle est catastrophique. C'est 24 heures, 48 heures, une semaine maximum.
Il faut expliquer ce que c'est l'autonomie alimentaire.
Vous imaginez, on coupe la route nationale, une fois qu'on a vidé les supermarchés et les commerces, eh bien on n'a plus à manger, tout simplement. C'est-à-dire que la capacité de subvenir aux besoins alimentaires du territoire, elle est proche de zéro. Et là, aujourd'hui, on n'est pas capable de subvenir à nos propres besoins, sauf à faire venir des produits d'Espagne, d'Italie, du Maroc, etc., etc. Alors en plus, en zone de montagne, ce n'est pas nécessairement très simple, mais ça veut dire qu'il y a un travail de fond à réaliser pour que toute cette déprise agricole cesse et qu'au contraire, on puisse réinstaller des agriculteurs. Ça veut dire aussi que ces agriculteurs doivent être payés convenablement pour le travail qu'ils font. Donc ça, c'est ce travail en circuit court qu'il faut réorganiser sur les territoires. L'autonomie alimentaire, c'est la clé. Et donc, on a des outils pour pouvoir essayer d'évoluer à ce sujet.
Et là-dessus, vous avez justement un projet qui part des restaurants de Briançon et des cantines scolaires pour y retourner, finalement.
Ça fait l'objet du contrat de transition écologique et solidaire que nous sommes en cours de signer avec le ministère de la Transition. Comment faire pour que cette transition s'opère sur les territoires? Comment faire que pour les citoyens, demain, ils puissent agir différemment? Quels sont les outils qu'on va mettre à disposition du citoyen pour changer ses pratiques quotidiennes? C'est-à-dire, comment faire pour que le citoyen puisse manger bio et local? Comment faire pour que le citoyen puisse se loger de façon décente sans avoir trop de consommation énergétique? Comment faire pour qu'il puisse se déplacer sur le territoire sans produire trop de CO2? Voilà, tous les sujets du quotidien, si on les prend les uns après les autres, il faut que les citoyens, les entreprises, les associations, les collectivités mettent tout en œuvre pour répondre à ces besoins primaires. Alors dans le contrat de transition écologique, sur la ville de Briançon, un des projets proposés serait d'affréter des chevaux qui vont collecter les déchets alimentaires des restaurants et des cantines. Ils vont traverser la ville, on va en périphérie de la ville, on dépote ces déchets, on en composte une partie et on en méthanise une autre partie pour pouvoir créer de la chaleur qui chaufferait des serres agricoles qu'on installe juste à côté, où des gens en insertion cultiveraient des légumes qui seraient transformés dans une légumerie et une conserverie pour ensuite être transportés à cheval vers l'hôpital de Briançon, vers le centre Le Poire qui fait 1000 repas par jour, ou vers des restaurants ou autres. Là, je vous parle d'un périmètre de 2 km. Les déchets, le transport, l'agriculture, l'insertion, l'alimentation, l'énergie, le lien social, tous les axes de la transition écologique à travers un projet peuvent se mettre en ordre de marche pour subvenir aux besoins d'alimentation en bio et circuit court de la population.
Et les 1000 repas par jour sont les repas des enfants à la cantine.
C'est ça. Oui, tout à fait.
Pierre Leroy, vous êtes président du pays du Grand Briançonnais qui regroupe 36 communes, 35 000 habitants. L'un des gros enjeux évidemment pour la transition écologique, c'est l'énergie. Et sur cette dimension aussi, vous avez été novateur, même quasiment parmi les premiers à créer des coopératives citoyennes de l'énergie.
Alors surtout nous, on a créé, c'était pas une coopérative au début. Nous, on a créé la première société d'économie mixte en France qui associait une collectivité, une mairie et ses habitants pour produire de l'énergie. Donc ça, c'était dans les années 2009. Aujourd'hui, les habitants, la commune, puis maintenant d'autres partenaires, des entreprises, d'autres collectivités, nous avons 18 centrales photovoltaïques reliées au réseau. Et donc on continue, on a des projets en hydroélectricité, etc., etc. Ça, c'est sur de la production d'énergie renouvelable. Mais surtout, nous, ce qui nous motive, c'est pas tant de produire, c'est de produire ce que nous consommons. Ça veut dire que préalablement, il faut faire tous les efforts possibles de sobriété énergétique. Donc ça, c'est l'enjeu prioritaire. Baissons nos consommations. Donc là, un énorme champ des possibles. Et ensuite, produisons l'énergie dont on a besoin, et uniquement celle dont on a besoin. Il n'est pas question de tartiner le territoire de centrales photovoltaïques, de mettre des éoliennes de partout, de faire de l'hydroélectricité à tout rompre. Il faut baisser nos consommations et ensuite, petit à petit, mesurer vraiment ses consommations et produire localement ce que nous consommons.
Alors, quels sont les leviers pour baisser la consommation?
Alors, sur nos territoires, les communes s'en sont bien préoccupées. Il y a déjà, je vous parlais de l'éclairage public. Il y a un certain nombre de communes qui ont éteint l'éclairage public entre minuit et 5 heures. En fait, c'est du bon sens. Dans un village de 200 habitants, entre minuit et 5 heures, l'éclairage public n'a aucun sens. Donc c'est ça. En même temps, on n'aura pas la même attitude dans un centre-ville où là, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc tout ça, c'est au cas par cas. Mais là, les communes, pour beaucoup, s'en sont préoccupées. Ensuite, il y a la consommation de tous nos bâtiments. Il y a des collectivités qui ont des bâtiments qui sont parfois chauffés alors qu'il n'y a personne dedans. Donc là, on a formé les personnels et les élus à l'usage des bâtiments publics, à l'analyse des factures de consommation énergétique et donc après à la mise en œuvre de travaux de sobriété énergétique. Et l'objectif, c'était aussi de montrer l'exemple. Donc là, il y a un message et de l'accompagnement à faire pour que petit à petit, les territoires rentrent en mouvement.
Alors pour voir comment se passe la production d'énergie sur le territoire, nous avons rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jackie Audouin de la Sève. Ça veut dire quoi la Sève ?
Sève, c'est soleil, eau, vent, énergie. C'est le mix énergétique, hein, puis la Sève, c'est la biomasse en puissance. Donc voilà, on parlait de biodiversité, bah, elle est aussi dans l'énergie.
Bonjour Jackie Audouin.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans ?
Eh ben, en 8 ans, à l'image de Pierre Leroy, ça a été un rouleau compresseur. On a très très vite équipé les premières toitures déjà de la commune depuis Saint-André, puisqu'on est parti sur des toitures mises à disposition par les collectivités. On en est à 16 installations photovoltaïques installées sur des toitures, à la fois sur des toitures de collectivités et quelques-unes sur des toitures privées, soit chez un particulier, soit sur une copropriété. Et en même temps, on a mené depuis 2 ans des études pour turbiner de l'eau potable ou un torrent. On en est maintenant à déposer le dossier pour avoir les autorisations administratives d'utiliser cette eau qui sera après remise dans le milieu ou dans le réseau.
Oui, ça va un petit peu augmenter le volume parce qu'aujourd'hui, si on parle en pourcentage, on prend un petit peu de hauteur. Ce que vous fournissez en termes d'énergie à l'échelle du territoire n'est pas très important.
Bah, on est monté en puissance progressivement, donc les 16 toitures à l'heure actuelle, elles produisent ce qui est consommé quand même par un équivalent de 250 foyers. Donc ce n'est pas négligeable, mais pour un bassin de population de 35 000 habitants, ce n'est pas signifiant. Par contre, si on réalise ces 2 turbinages d'eau, on va multiplier par 4 ce qu'on a actuellement en puissance installée en photovoltaïque.
Ici, c'est un peu un territoire pilote qui a donné envie à d'autres territoires de se lancer.
Oui, tout à fait. On ne peut pas dire qu'on a été les premiers en France, mais en tout cas, la SEMSEF, c'est la première SEM de France de production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qui associe des collectivités et des citoyens. Cette création par Pierre Leroy a donné envie, enfin lui-même a donné envie, mais l'expérience a donné envie à énormément de groupes de citoyens, au point qu'aujourd'hui, l'ensemble du département des Hautes-Alpes est couvert par des coopératives citoyennes de production d'énergie renouvelable et de sensibilisation à la sobriété, à l'efficacité énergétique. Et pas seulement notre département, parce que tout autour, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en Isère, et puis même dans plein d'autres régions de France, Pierre Leroy a eu l'occasion d'être invité un peu partout pour témoigner de cette expérience. Il a toujours incité les gens à créer eux-mêmes leur structure localement. Et puis on a des visites d'élus qui viennent d'un peu partout, des groupes, des universités, enfin, etc. Donc ça sert de modèle et ça reste une référence. Just because of you, I'm begging on you. You know it's for you. I'm feeling for you, mourning my love, and I'm always saying.
Pierre Leroy, l'un des gros enjeux, évidemment, quand on fait la transition écologique sur un territoire, c'est de maintenir des emplois, voire d'en créer en plus de ceux qui existent déjà. Et ici, il y a une problématique qui, évidemment, est fortement dépendante des aléas du climat. C'est le ski, toutes les activités de montagne, les randonnées, etc. Ici, il y a une source économique très importante, c'est la station de ski de Serre-Chevalier. Cette station, elle représente quel poids économique pour le pays du Grand Briançonnais ?
Serre-Chevalier, c'est une station majeure du territoire, mais il n'y a pas que Serre-Chevalier sur le territoire. Il y a aussi Montgenèvre, il y a Vars, il y a Risoul, toutes les petites stations de moyenne montagne du Queyras. Donc en fait, le tourisme ici, le tourisme d'hiver et le tourisme d'été sont des enjeux primordiaux pour le territoire. Ça, c'est certain.
Oui, parce que là, on va aller voir en effet le directeur de la station de ski de Serre-Chevalier, mais nos auditeurs, par exemple, peuvent se dire « Oui, bon, ça va, le ski, c'est anecdotique, c'est un sport de luxe, il n'y a peut-être pas besoin de se battre autant pour préserver cette activité. »
Elle est touchée, en effet, par des changements de pratiques, hein, ça c'est sûr. Hein. Les gens ne vont aujourd'hui moins au ski qu'il y a 20 ans. Mais il n'empêche, c'est quand même un pilier de notre économie. Et puis c'est tout un territoire qui a été aménagé, qui a été transformé avec cette activité. Donc pour nous, c'est aussi une identité du territoire. Et donc ça, on ne peut pas d'un revers de main comme ça faire disparaître un pan de l'économie. Il y a des adaptations progressives à trouver. Et donc c'est les enjeux de ces stations qui, dans le Queyras, c'est des sujets qu'ils ont travaillé depuis très nombreuses années. Hein. Les stations de moyenne montagne ont essayé de diversifier leur activité et de trouver aussi une autre organisation pour pouvoir continuer à fonctionner sur le territoire.
Nous allons aller demander à Patrick Arnault, le directeur de la station de Serre-Chevalier, comment il s'en sort avec tous ces enjeux.
Bonjour.
Vous êtes donc Patrick Arnault, le directeur de la station de Serre-Chevalier ?
Ben oui, c'est ça, depuis un petit moment déjà.
Alors là, on entend, on est juste au bord d'une télécabine. On va monter dans une cabine dans très peu de temps. On est au pied du domaine, là. Il représente quelle superficie, ce domaine ?
Le domaine skiable de Serre-Chevalier, c'est un très grand domaine skiable, puisqu'il s'étale sur une grande partie de la vallée de la Guisane, donc sur 400 hectares. Donc c'est un domaine skiable important, avec 250 km de pistes. Offerte aux skieurs.
Skieurs qu'on entend passer derrière nous, là, les bruits sont les bruits de bâtons, de ski. Ça emploie énormément de monde ici, c'est un poumon économique important.
Sur une saison d'hiver, on estime à Serre-Chevalier qu'il y a à peu près 3000 personnes qui vivent directement du tourisme, sur une population d'environ 15 000 personnes, tout compris collégiens, retraités. Ben c'est, on voit que c'est vraiment effectivement essentiel sur la période d'hiver.
Alors la problématique, et c'est ce dont on va parler, c'est qu'une infrastructure comme ce domaine skiable, ben, y a évidemment un impact environnemental. On en parle dans la cabine ?
Volontiers.
On laisse ses skis dehors et on monte dans la montagne.
On monte à 8. Alors là, c'est un peu la particularité de Chevalier, c'est que cette télécabine, elle permet d'accéder au cœur du domaine skiable, puisque à Serre-Chevalier, on a un certain nombre de villages qui sont dans la vallée. Et ensuite, on monte en altitude grâce à cette télécabine pour vraiment accéder au domaine skiable d'altitude, puisque on est ici à 1300 mètres et que le sommet des pistes est à 2700 mètres. Donc c'est vraiment le lien entre la vallée et la montagne, cette télécabine.
Alors, parlons de cette transition énergétique, puisque comme beaucoup d'acteurs ici dans le Grand Briançonnais, vous êtes acteur de cette transition. Alors, quelles sont les solutions que vous envisagez pour diminuer votre impact ?
On s'est rapidement rendu compte qu'en fait, un domaine skiable, c'était un espace qui était extrêmement favorable à la production d'énergie renouvelable.
Parce que c'est extrêmement gourmand en énergie, il faut quand même le dire. Vous consommez combien par an ?
On consomme environ 15 gigas. Donc effectivement, si on peut en produire tout ou partie, c'est toujours ça de gagner. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait que un domaine skiable, toute l'année, même quand il est fermé, est un endroit qui est particulièrement adapté à la production des trois types d'énergie renouvelable, en s'appuyant en plus sur des infrastructures qui existent déjà. Puisque des choses qui ne seraient pas possibles ailleurs, de par le fait qu'il faudrait construire des routes d'accès, amener des lignes électriques pour redescendre l'énergie vers l'endroit où elle la consomme, et bien tout ça existe déjà sur un domaine skiable. Et ce qui est vrai, Serre-Chevalier, sera valable partout dans le monde.
Alors, les trois types d'énergie, c'est donc de l'éolien, du solaire et de l'hydraulique. En gros, vous allez installer des éoliennes, vous allez mettre des panneaux solaires là où vous pouvez, et puis faire turbiner l'eau des torrents pour produire quoi, au moins un tiers de l'énergie que vous consommez.
On est en train de mettre en place un programme triannuel, et effectivement, quel fruit de 4 années d'études, hein, donc on sait à peu près où on va, et donc la production devrait correspondre à l'issue de ces 3 ans à au moins 30% de ce qu'on consomme. Et on a déjà des idées pour aller plus loin. Donc ça veut dire que chaque type d'énergie va pouvoir produire dans un environnement qui est favorable. Et en plus, les 3 types d'énergie vont se combiner et se conforter entre elles, notamment pour favoriser une autoconsommation et une valorisation de l'ensemble de l'énergie qu'on va produire.
Après, pour aller encore plus loin et limiter au maximum l'impact, vous dites que vous avez besoin des clients, en fait. Vous avez besoin que les skieurs soient sensibilisés aussi pour faire des efforts, parce que sinon, ça va être trop compliqué.
Ben oui, l'idée, c'est de consommer moins pour que la part d'énergie qu'on va produire soit plus importante par rapport à ce qu'on consomme. Et pour ça, il y a ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entreprise. Et on travaille dessus, on va y travailler d'arrache-pied dans les années qui viennent. Mais à un moment donné, notre conviction, c'est qu'on va avoir besoin de nos clients pour nous aider à aller plus loin. Donc l'histoire reste à écrire sur comment on peut, en jouant par exemple sur la vitesse des remontées mécaniques, en jouant sur la largeur des pistes à certaines périodes, peut-être, du domaine skiable. Donc l'idée, c'est pas de raccourcir les pistes,
on est arrivé.
Mais c'est les adapter à la fréquentation, en fait.
Donc là, on est arrivé, donc on va voir le cœur de la station.
Donc on est à 1800 mètres d'altitude, on a 4 restaurants, et puis de là on aperçoit la première éolienne qui a été installée à Serre-Chevalier sur la crête là-haut. Donc on voit qu'elle est à côté de l'arrivée du télésiège et que d'ici, globalement, c'est à peu près la même hauteur que le dernier pylône du télésiège. Bah, c'est notre première éolienne qui sera bientôt rejointe par d'autres, puisque les premiers résultats de cet hiver sont très encourageants.
Et le but, c'est que vous soyez aussi un laboratoire pour les autres stations de ski en France et en Europe.
Ben oui, moi, ma grande satisfaction, ça serait que dans 5 ans ou dans 10 ans, quand j'irai skier ailleurs, je vois des gares de télésièges équipées des panneaux photovoltaïques qu'on a découverts et testés l'année dernière, que je vois des petites éoliennes comme on a mis cette année un petit peu partout. Parce que ce qui marche à Serre-Chevalier, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Et on partagera les résultats, on partagera l'expérience qu'on a avec des stations. Et ça commence dès la semaine dernière, parce que j'ai 4 stations qui viennent nous visiter, pour que l'ensemble des stations de ski en France et dans le monde, si on veut rêver un peu, puissent contribuer ensemble aux objectifs de chaque pays en termes de volume d'énergie renouvelable produite.
Construire ensemble un territoire de transition écologique, énergétique et solidaire exemplaire, c'est l'ambition de Pierre Leroy, vous l'avez compris. Mais pour cela, il faut donner envie aux habitants de participer, de reprendre leur vie en main, d'échanger, d'innover, d'où l'idée d'organiser une grande soirée. En première partie, à 18h30, il y a la projection du documentaire « Après-demain » de Cyril Dion, un documentaire qui revient 3 ans après sa sortie sur le bilan du premier documentaire « Demain » qui avait donné envie à des milliers de personnes à travers le monde d'agir. Cette projection est suivie d'un débat à 20h30 entre Pierre Leroy et le documentariste, retransmis dans 36 communes grâce à la chaîne de télévision locale d'ICI TV.
Yannick Régnier, je suis responsable de projet au Clair, réseau pour la transition énergétique, et j'anime le réseau des territoires à énergie positive.
Alors c'est quoi ce réseau de territoires à énergie positive ?
Alors c'est un réseau de collectivités et d'acteurs locaux qui s'est fondé il y a un moment maintenant, hein, puisque le réseau est né en 2011, à l'initiative justement de collectivités qui visaient l'objectif 100% renouvelable, l'autonomie énergétique ou des objectifs équivalents, mais essentiellement des collectivités rurales qui en fait inscrivent l'énergie dans une question générale de développement en faveur du territoire.
Il y en a combien aujourd'hui qui sont engagés dans ce réseau ?
Alors le réseau rassemble à peu près 120 membres, dont 80 collectivités. Il faut voir qu'en plus des collectivités, alors un peu toute échelle, hein, ça va de la commune au grand territoire comme ici le pays du Briançonnais. On a aussi des acteurs territoriaux comme des coopératives agricoles, des coopératives énergétiques, des syndicats d'énergie, parce qu'on souhaite vraiment travailler, et d'ailleurs des entreprises, on souhaite vraiment travailler sur une logique d'écosystème en fait au niveau territorial, pas uniquement l'acteur public.
Et alors sur quelle dynamique s'appuient les territoires pour devenir territoire à énergie positive ?
Alors, en termes d'action, on a trois fondamentaux. Nous, on s'appuie sur la démarche Négawatt que vous connaissez éventuellement, avec trois piliers, des piliers sur les questions d'économie d'énergie, avec une dimension d'efficacité, à caractère un peu technique, et puis de sobriété. C'est important, cette question de sobriété, c'est-à-dire la manière en fait, dont on consomme, dont on habite, dont on vit, dont on se déplace. Et puis la production d'énergie renouvelable. Et donc, avec ces deux piliers-là, l'idée, finalement, c'est à terme de se passer des énergies fossiles de manière générale et puis de l'énergie nucléaire. Et plus concrètement, ça veut dire rénover des bâtiments, ça veut dire trouver des alternatives à la voiture tout seul d'une part, mais la voiture aussi qui fonctionne aujourd'hui au pétrole. Ça veut dire produire des énergies renouvelables à la fois sur des grands projets, idéalement d'ailleurs avec des acteurs territoriaux qui sont partie prenante des projets, des citoyens, des entreprises locales, des collectivités, mais aussi des plus petits projets à la portée de tout un chacun.
Et donc ce soir, il y a un débat que vous animez, qui est organisé dans 35 communes à la fois. Ce débat, il sert à quoi et il s'inscrit comment dans cette logique ?
L'idée vraiment pour moi, enfin pour le territoire en l'occurrence, mais pour moi en tant qu'animateur, c'est d'arriver à faire s'exprimer les deux intervenants, Cyril Dion et Pierre Leroy, autour justement de la question du rôle des habitants dans la transition et ce en quoi ils peuvent se porter acteurs de cette transition réellement. Donc par des gestes du quotidien, c'est une chose, mais éventuellement par la structuration de dynamiques collectives qui elles-mêmes sont plus transformatrices encore pour le territoire.
C'est pour répondre à la question... D'accord, il y a le changement climatique, d'accord, il y a la dégradation de la biodiversité, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ?
Bah oui, soit on s'enterre dans son trou, soit on fait quelque chose. Voilà. Et nous, notre territoire à énergie positive, quand on travaille au niveau national, ce terme-là, territoire à énergie positive, procède un peu de cette même idée, c'est celle d'arriver à vraiment aller de l'avant et puis à ne pas se laisser abattre, tout simplement.
Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Vous êtes venu participer à ce débat. C'est important pour vous de venir rencontrer les gens sur les territoires ?
Là, c'est surtout pour soutenir une dynamique de territoire qui est assez exceptionnelle. Pierre Leroy, dans sa ville, a impulsé une dynamique assez exemplaire qui est dans un territoire relativement restreint et puis un peu atypique puisque c'est un territoire de montagne. Il y a tellement à apprendre de ça pour d'autres villes que j'ai eu envie de venir soutenir. Donc là, ils ont organisé un truc hyper chouette où le film était projeté dans 36 communes en même temps. Et dans des endroits insolites, puisqu'ils voulaient que ce soit des endroits de vie. Donc c'était dans des épiceries, dans des cafés, dans des médiathèques. Et ensuite, les gens avaient une heure là pour discuter et dîner, en gros, pour se parler de ce qu'ils avaient pensé du film. Et là, on va faire un grand débat qui sera à la fois donc, dans le théâtre et retransmis sur la télé locale. Donc tout le monde pourra regarder de chez lui. Ce qu'ils avaient envie d'organiser, c'est que les gens puissent avoir finalement la transition qui arrive à la maison. Et pas seulement être obligé de se déplacer.
Oui, puis se regrouper autour. Nous, on va filer là dans une salle des fêtes où les gens se retrouvent à 5-6 km d'ici. C'est cette dynamique-là que vous vouliez impulser avec vos documentaires. C'est faire en sorte que les gens se saisissent de la transition écologique sans attendre que ça vienne forcément du politique.
Ben, moi, j'ai l'impression que ce dont on a besoin, à la fois pour que ça marche, cette transition, mais aussi pour que... on puisse encaisser les chocs qui vont malgré tout arriver parce qu'on a dépassé des seuils, notamment dans la hausse des températures, qui font qu'il y aura des phénomènes climatiques extrêmes. C'est recréer des communautés, c'est faire en sorte que les gens soient à nouveau ensemble, qu'ils se parlent, qu'ils s'organisent. La solution, c'est l'intelligence collective, c'est que les gens se parlent, c'est qu'ils trouvent des solutions qui soient à peu près adaptées à tout le monde, enfin en tout cas acceptables par tout le monde. Donc toutes ces initiatives-là participent à ça pour moi.
Bonsoir, bienvenue. Installez-vous dans la salle pour ceux qui sont dans la salle. Bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes à distance puisque ce débat est projeté dans les 30 et quelques villages, 36 villages, pas tout à fait.
Peut-être on reprend. Est-ce que vous souhaitez poser une question ? Enfin, je ne sais pas si on...
Ça y est, le débat vient de se terminer. Il est 22h35. Vous avez suivi ce débat assidûment. Je peux vous demander de vous présenter ?
Bon, je suis habitante de Val-des-Prés. Depuis longtemps, je suis intéressée sur comment vivre autrement. Voilà.
Alors, on entendait plusieurs personnes là, en se levant qui disaient « Bon, ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à », parce que ce débat incitait évidemment les citoyens à participer à la transition écologique, à ne pas seulement attendre que les politiques initient des choses, mais à les solliciter des politiques, à participer aussi à la vie politique. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à tout ce qui a été dit ?
Oui, il faut agir. Ceux qui n'ont pas encore agi personnellement, il faut qu'ils écoutent tout de moins. Nous, dans le village, on se réunit déjà pour voir comment on peut faire des échanges de services, pour pouvoir utiliser la monnaie locale, pour pouvoir échanger aussi nos savoirs. Voilà.
Alors, avant le débat, ici, il y avait une discussion, parce qu'il y a des gens d'horizons très différents. Il y avait un monsieur qui disait, bon, moi, je ne fais pas partie du mouvement. Pour moi, c'est un peu de l'utopie, tout ça. Et vous lui avez dit, non, mais il y a de plus en plus de gens qui font partie du mouvement. Moi-même, j'ai évolué.
Oui, parce que, bon, c'est une personne qui est de la génération au-dessus. Comme mes parents, comme la génération d'au-dessus, n'étaient pas concernés. Ils écoutent, ils voient ce qui se passe, mais voilà, ils ont été dans une politique de productivité, de consumérisme. Pour eux, c'est de l'utopie de changer tout ça, de ne pas avoir un métier toute la vie, de ne pas gagner de l'argent pour voilà, la retraite. Enfin, c'est des systèmes. Hein, on a été éduqués dans une systématisation de notre vie. Et ben non, il faut changer ça, je crois. Il faut s'approprier un petit peu nos vies et puis notre façon de vivre et à faire ce qui nous plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est aussi de méditer, c'est aussi de regarder la nature, d'aller faire un rando. Pour moi, ce n'est pas de l'utopie et, parce qu'il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de jeunes qui ont cette discussion-là. Et c'est un début.
Un début prometteur, puisque plus de 600 personnes se sont réunies sur les différents sites où était organisée la soirée. Une centaine de questions ont émergé, avec notamment une préoccupation importante pour les enjeux de mobilité. Mais l'essentiel, c'est que l'impulsion est lancée et que de nombreux territoires pourront s'en inspirer.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut.
Merci aux Briançonnais pour leur accueil, à François Porcheron pour la réalisation de l'émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réagir et voir des bonus avec nos invités en vidéo. Hashtag CPDV, tout simplement. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio ou sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.
J'ai ma maison, viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si beau.